Il n'est pas très facile de parler après un évêque et avant un dominicain. Je suis pris dans le feu de la hiérarchie et de l'inquisition, même si elle est sainte. D'autre part, le sujet demandé est d'une très grande amplitude, très large. Et pour comprendre la situation de la mariologie aujourd'hui, donc c'est la science théologique qui regarde la Très Sainte Vierge, il faudrait brosser le tableau de l'histoire de la mariologie depuis 40 ans, 50 ans. Sujet immense qui regroupe un matériel impressionnant, puisqu'un père, le père Bessouti, a écrit une bibliographie complète de ce qui regarde la Très Sainte Vierge depuis 1950 jusqu'en 1984. Eh bien, ça remplit déjà 7 volumes. Donc nous voyons que même dans la crise actuelle, la crise de la théologie, de la mariologie, on s'intéresse toujours à la Sainte Vierge. Nous allons essayer, à travers l'histoire de cette théologie, durant ces dernières dizaines d'années, de voir s'il y a un fil conducteur, si les principes sont les mêmes. Nous allons partir très brièvement de la préparation du dogme de l'Assomption avec les partisans et les ennemis, suivi des grands congrès mariaux. Ensuite, il faudrait repenser toutes les vicissitudes de la préparation et du déroulement du Concile Vatican II, où nous retrouvons pratiquement les mêmes personnes, ou au moins les mêmes principes d'opposition à la proclamation du dogme de l'Assomption. Principes qui peuvent se résumer ainsi: ne pas donner trop d'importance à la Vierge Marie pour ne pas créer de difficultés à l'élan écuménique. C'est ce que l'on trouve chez les nouveaux théologiens dans les années 50 et ce qui sera en même temps le mot d'ordre pour le Concile Vatican II, mot d'ordre donné par le pape Jean XXIII. Au moment du Concile, ou juste après, il y a eu le fameux catéchisme hollandais, je dirais, ça a été le creux de la vague où, d'une manière tout à fait claire, il y a eu l'opposition sur la virginité de la Très Sainte Vierge. Ça a été peut-être le moment le plus tragique pour l'histoire de la mariologie. Et nous terminerons par le discours du Saint-Père, du pape Jean-Paul II, qu'il a prononcé le 29 mai dernier, à l'occasion d'une audience générale du mercredi. Le pape, dans ce discours, interprète ce qu'on appelle le protévangile, c'est-à-dire quelques versets du chapitre 3 de la Genèse, où on annonce le rôle du Rédempteur et de la Très Sainte Vierge. Et le pape, nous pouvons le dire, interprète ce texte dans le sens des novateurs, ou tout au moins avec les principes des novateurs qui se sont opposés, d'une part, à la proclamation du dogme de l'Assomption, et qui, d'autre part, à l'occasion du Concile, ont voulu redimensionner le rôle de la Très Sainte Vierge Marie. Nous allons essayer de démontrer, en mettant en évidence les principes qui dirigent cette nouvelle théologie, démontrer quels sont ces principes et qui pratiquement sont les mêmes que ceux qui dirigent, qui guident ce qu'on appelle la nouvelle théologie. Et pour rendre cet exposé plus clair et plus facile, nous rappellerons brièvement les principes sous-jacents à ce que nous appelons la nouvelle théologie, pour montrer ensuite, bien sûr, ses influences dans la mariologie. Qu'est-ce que la nouvelle théologie ? Eh bien, pour bien connaître ce qu'est la nouvelle théologie, les principes qui lui sont propres, il faut nous pencher sur ce que l'Église nous a enseigné à ce sujet. Tout comme pour le modernisme, pour trouver une analyse rigoureuse et toujours actuelle, et même jamais dépassée par son acuité et sa précision, il faut nous tourner vers Saint Pie X avec l'encyclique Pacem. Pour la nouvelle théologie, il faut nous tourner vers Pie XII, avec son encyclique Humani Generis du mois d'août 1950. Encyclique relativement courte, mais riche d'enseignements. Et le professeur Ameriot, l'auteur de ce fameux livre, Iota Unum, parlant des encycliques Pacem Dii et Humani Generis, les appelle deuxième et troisième syllabus. En lisant Humani Generis, nous révélons quelques principes qui sont sous-jacents à la nouvelle théologie. Selon Pie XII, trois sont les tendances de la culture moderne. L'évolutionnisme moderne, l'existentialisme et l'historicisme. Et de ces trois tendances apparaissent le contingent. Rien, tout passe. Plus rien de stable. Le positivisme, ce qui est. Le relativisme. Et donc une philosophie, nous pouvons dire, du devenir. Et ces courants philosophiques se rejoignent à la fin dans leurs ultimes conséquences avec la négation de Dieu et de l'ordre surnaturel. Pie XII, dans cette encyclique, déplore d'autre part la manie de la nouveauté de certains catholiques qui veulent se mettre au pas avec le progrès sans tenir compte des directives du magistère de l'Église et qui ainsi compromettent l'intégrité et la pureté de la foi. Il est très intéressant de voir l'explication que donne Pie XII de cette manie de la nouveauté chez les théologiens. Et à plusieurs reprises, dans son encyclique, il reviendra sur cela. Dans le but d'unir les hommes de toutes les religions et de toutes les idéologies. Donc nous pouvons dire que derrière la nouvelle théologie se trouve déjà ce qu'on appelle l'œcuménisme. Les responsables de la nouvelle théologie veulent réduire la portée du dogme et retourner au Père de l'Église et à la Sainte Écriture, ce fameux retour aux sources. Libérer de la formule technique, le dogme peut s'exprimer en notions et catégories toujours nouvelles qui permettent d'obtenir un plus grand consensus, non seulement entre catholiques et les autres confessions chrétiennes, mais aussi entre catholicisme et les philosophies les plus disparates, comme l'idéalisme, l'existentialisme et autres systèmes modernes. Nous retrouvons toujours, et pourtant nous sommes dans les années d'après-guerre, dans les années 1950, derrière ce qu'on appelle la nouvelle théologie, qui va influencer très fortement le Concile Vatican II, eh bien, nous trouvons toujours l'œcuménisme. Pour ces nouveaux théologiens, le retour aux sources, donc le retour à l'Écriture, au Père de l'Église, équivaut à faire fi de tout le magistère de l'Église. C'est ce qu'il faut comprendre toujours. Lorsque les nouveaux théologiens nous parlent du retour à l'Écriture, du retour au Père de l'Église, qui en soi pourrait être une bonne chose, mais derrière cette façade se cache, je ne voudrais pas exagérer, mais pratiquement ce mépris du magistère de l'Église. Certes, le magistère de l'Église a pour source l'Écriture et les pères de l'Église. Mais le retour aux sources n'est pas un retour à la tradition, car la tradition est la transmission du dépôt révélé depuis notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à nos jours. La tradition ne s'est pas arrêtée avec les pères de l'Église. C'est le dépôt qui est transmis Pour certains théologiens, le magistère serait un obstacle. Ces nouveaux théologiens veulent aussi être ouverts aux nouvelles philosophies. Et cela n'est qu'un prétexte aussi pour abandonner la saine philosophie, la philosophie aristotélicienne, la philosophie scolastique, et par là abandonner en même temps la théologie scolastique. L'encyclique Humanae Generis pour les théologiens est un fort rappel de l'importance du magistère de l'Église, gardien et interprète de la divine révélation. Avec insistance, plus de 20 fois dans l'encyclique, le pape Pie XII rappelle la dignité et la fonction du magistère de l'Église, c'est-à-dire de cet enseignement constant de l'Église. Et le pape n'hésite pas à donner les causes des aberrations des novateurs dans le fait de ne plus tenir compte du magistère. Se soustraire au magistère de l'Église, à l'enseignement de l'Église, est une tentation luthérienne. Et le luthéranisme a humanisé et pulvérisé la religion du Christ pour l'avoir réduit à une expérience personnelle, abolissant entre Dieu et l'individu la médiation de l'Église, c'est-à-dire la médiation du Christ. On ne peut pas séparer le Christ de l'Église. Le théologien catholique, s'il veut rester sur la voie sûre, sera attentif au magistère de l'Église, sans crainte que celui-ci soit un obstacle au progrès scientifique. On parle de temps en temps du magistère de l'Église comme un garde-fou, mais je pense que c'est vrai, mais ce n'est pas seulement ça, c'est beaucoup plus. Le magistère, c'est la lumière et la force du théologien. Donc, il faut se tenir à l'autorité du magistère de l'Église pour tous ceux qui regardent directement, et je dirais même indirectement, la foi, pour tous ceux qui regardent aussi les questions philosophiques qui ont un certain rapport avec la doctrine. Et en tout cas, il est impossible de traiter les questions de foi indépendamment du magistère de l'Église. Voyons maintenant cette influence de la nouvelle théologie, de ses principes dans la mariologie. Nous allons commencer en parlant brièvement de ce qui est appelé le mouvement marial. Les historiens contemporains reconnaissent deux grands courants qui marquent notre siècle et spécialement les années 50, le mouvement liturgique et le mouvement marial. Le mouvement marial a ses origines tout au début du siècle. Il est né, on peut dire, en quelque sorte, avec le pape Saint Pie X, à l'occasion du 50e anniversaire de la définition dogmatique de l'Immaculée Conception. En 1904, le pape Saint Pie X a écrit l'encyclique Ad Diem Illum, à l'occasion de ce cinquantenaire. Il a promu aussi à Rome un congrès marial international. Suite à ce départ est né ce qu'on appelle le mouvement dit assomptionniste, qui va aboutir à la définition du dogme de l'Assomption le 1er novembre 1950. Et suivra une période glorieuse pour la mariologie avec l'année mariale pour le centenaire de l'Immaculée Conception en 1954. Et c'est à cette époque, plus ou moins, un peu avant et un peu après, que vont naître un certain nombre de fondations qui vont se donner comme but de diffuser, de faire connaître la Sainte Vierge et la doctrine qui regarde la Sainte Vierge. Ce sera l'époque de la fondation des sociétés mariales nationales, des instituts mariaux internationaux, de l'Académie mariale internationale, des chaires de mariologie dans les universités catholiques, les bibliothèques mariales. Et toutes ces fondations générales sont accompagnées aussi de publications spécialisées comme Marianum ou Ephemerides Mariologice, etc., etc. On trouvera, peut-être un peu avant 1950, je dirais ce que nous avons encore comme grand traité de mariologie, que ce soit l'épicier Meckelbach, ou encore, je pense, le plus important qui n'a pas été surpassé, il me semble, jusqu'à maintenant, ce traité marial en 4 volumes du père Roschini. Ce grand mouvement marial n'est pas apprécié par tous. Et notons deux mots d'esprit, mais de mauvais esprit, du père Yves Congar à ce sujet. Au lendemain de la définition de l'absomption, il écrit au marianiste Maurice Villain cette expression dans une lettre, en parlant de ce climat qui s'était créé suite à la définition de l'Assomption. On vit un mariano-christianisme, pour montrer la différence avec la religion chrétienne, un mariano-christianisme avec un air de mépris. Et à propos du congrès marial de 1958, qui était en quelque sorte, dans un certain sens, parce qu'il y avait déjà des influences de la nouvelle théologie, mais on peut dire l'apogée de l'élan marial, de ce mouvement marial, eh bien, le père Congar parle d'une mariologie galopante. Pauvre père Congar, fils de Saint-Dominique. Les premières influences, au moins officielles, de la nouvelle théologie, nous les trouvons dès les années 1955. Alors, il ne faudrait pas croire que dans le mouvement marial, il y a eu l'apogée où tout a été très bien, par exemple jusqu'en 1958, et à partir de 1958, tout est à rejeter. Bien sûr, ces influences sont... Il y a une lutte, nous allons le voir, des tendances diverses, donc on ne peut pas non plus tout accepter avant 1958 comme tout rejeter après. Voilà un exemple déjà des influences. On trouve ça dans l'Observatore Romano, donc le journal du Saint-Siège, le 4 septembre 1955. Un article de l'Observatore Romano sanctionne un prêtre allemand, Johannes Pinz, qui avait émis des réserves sur la récente définition de l'Assomption. Et voilà comment juge l'auteur, le théologien qui a écrit pour l'Observatore Romano, en parlant de ce théologien. Il fait trop abstraction du magistère ecclésiastique. En se tenant exclusivement à la Sainte Écriture, qu'il a interprétée d'ailleurs à sa façon. Nous retrouvons tous les principes de la nouvelle théologie. Abstraction du magistère de l'Église, donc de l'enseignement de l'Église, de l'enseignement des papes, retour à l'Écriture, mais puisqu'il n'y a plus l'enseignement des papes, c'est une interprétation personnelle, ce n'est plus l'interprétation de l'Église. Cas typique de l'influence de la nouvelle théologie sur la mariologie, et ce cas isolé officiellement, ce n'est que la pointe de l'iceberg qui reste cachée par peur des représailles de Rome, spécialement du Saint-Office. Mais ce cas va faire école pour triompher avec le Concile et après le Concile. Sous prétexte d'un retour aux sources, c'est-à-dire de l'Écriture sainte et des Pères, on va mettre à part le magistère de l'Église. Lorsque l'on parle avec des théologiens actuels, je dirais conservateurs, pas des progressistes, parlant de leurs confrères progressistes, et lorsqu'ils se parlent des questions actuelles, parlent de l'ignorance de la part de leurs confrères du magistère de l'Église. Est-ce qu'on peut parler d'ignorance? Ne serait-ce pas du mépris? N'y a-t-il pas une forme d'ignorance systématique qui peut devenir ou être tout simplement du mépris? L'état de la mariologie, ou au moins du magistère de des évêques. À la veille du Concile, nous trouvons cela dans les lettres des évêques au pape Jean XXIII au sujet du Concile. Et voici ce que disait l'abbé Simoulin à l'occasion du dernier congrès de Sissinono, parlant de ces lettres des évêques. La mariologie des évêques est rassemblée en 59 propositions, toutes dans le sens d'un développement de la doctrine traditionnelle, même si 17 évêques s'opposent à toute définition. À l'opposé, 55 d'entre eux demandent la définition de la maternité spirituelle, 23 celle de la royauté de Marie, 49 la définition de la co-rédemption et 311 celle de la médiation universelle. Cette demande est celle qui regroupe le plus grand nombre d'évêques. Au total, c'est près de 600 pères qui demande que le Concile parle de la Vierge. Mais on remarque aussi, à travers les lettres des évêques adressées au Saint-Père, déjà les tentations des novateurs, spécialement chez les évêques hollandais et chez l'archevêque Alfrink, qui demande au Concile de voir si, à la forme concrète de l'Église actuelle, ne sont pas liées des réalités qui provoquent la résistance des orthodoxes et des protestants, et qui, par-dessus tout, obscurcissent le vrai visage de l'Église, c'est-à-dire son visage christocentrique. À ce sujet, l'évêque Niermann pense notamment à certaines formes de culte de reliques et de la pratique des indulgences. Les évêques Münster, Bethen et Mors, ainsi que Janssen et surtout Alfring, mentionnent aussi le culte de Marie. Des dénominations mariales comme co-rédemptrice et médiatrice de toute grâce ne devraient plus être employées pour l'archevêque Alfring. Et on trouve ça donc dans les lettres que les évêques ont adressées au pape Jean XXIII. Donc, à la veille du Concile, à l'annonce du Concile, lorsque le pape Jean XXIII consulte les évêques, on peut dire que l'ensemble des évêques suit le grand courant marial, est en faveur de ce courant marial et de ce progrès et cet approfondissement de la doctrine qui regarde la Très Sainte Vierge. Mais déjà, on trouve dans l'épiscopat des résistances, les novateurs. Et je dirais, la préparation du Concile, ce conflit entre ces deux courants. Et nous allons voir comment, pratiquement, c'est le courant minoritaire qui va prendre le dessus. Dans la phase préparatoire du Concile, le schéma sur la Très Sainte Vierge fut confié à la commission théologique qui dépendait du Saint-Office et donc du cardinal Octaviani, puisque c'était lui qui était le président. Le père Balic fut chargé de rédiger un premier texte et il expliqua lui-même les diverses finalités qu'il s'est imposées. Réponse à certaines erreurs sur Virginitas in partu. Donc sur la question de la virginité. Beaucoup parmi les novateurs sont d'accord pour défendre la virginité avant et après, mais non pas au moment de la naissance de notre Seigneur. C'est une erreur qui est traînée depuis plusieurs dizaines d'années. On vous explique, même des professeurs actuellement à la Grégorienne, le père Gallo, que si notre Seigneur est pleinement homme, il doit être né comme tous les autres hommes. Alors bien sûr, dans les articles qu'il écrit, il ne vous parle pas de la virginité de la Très Sainte Vierge, mais c'est le grand moyen, bien sûr, de détruire la virginité de la Très Sainte Vierge. Alors, réponse à certaines erreurs, donc sur la virginitas in partu, sur la connaissance de la part de la Très Sainte Vierge de la divinité de son Fils du temps de l'Annonciation, et sur d'autres erreurs qui commençaient à courir chez certains théologiens plus avancés. Premier but. Deuxième but. Éviter un langage qui puisse embarrasser les dissidents. Bon. Un des buts donnés par Jean XXIII pour le Concile, donc un concile à esprit œcuménique. Mais en même temps, il dit « Toutes les affirmations devraient se trouver dans le magistère, dans les textes du magistère. » Donc, fidélité au magistère. De fait, le père Balic s'est limité dans son texte à l'économie du salut, expliquant comment la médiation de Marie ne compromet nullement le rôle unique du Christ. Suite à ce texte, il a été discuté spécialement par la commission centrale, par d'abord la commission théologique et la commission centrale, et les pères qui étaient chargés de préparer le concile ont demandé au père Balic de revoir son texte afin qu'il mette en évidence les privilèges de Marie, qui étaient pratiquement absents de son texte. Alors il a corrigé, changé son texte, et c'est celui qui fut distribué au père du concile le 23 novembre 1962. Voilà comment est jugé ce texte qui a été distribué au père du concile. Je prends le jugement d'un mariologue, peut-être aujourd'hui le plus en vogue, le plus connu au moins dans l'Église dite officielle, le père Stefano de Fiores, qui a reçu des prix pour ses travaux, et entre autres le prix Laurentin, parce qu'il existe pour les mariologues un prix qui s'appelle le prix Laurentin. La critique que fait, ou l'analyse que fait le père Defiores, parlant de ce texte, il ressent trop l'esprit des manuels, ça veut dire de la théologie scolastique. Il représente une mariologie magistérielle, en tant qu'il empruntait expressément toutes les expressions des documents pontificaux. Donc aussi une teinte presque de critique. Oui, c'est un texte trop magistériel, trop conforme, parce que c'est ce qu'il veut dire, à l'enseignement des papes. Ce texte de fait comporte 3,5 pages. Mais il y avait 14,5 pages de notes. Et Defiores écrit « Les notes regardent 117 fois les papes contre, c'est lui qui ajoute, 57 citations de l'Écriture et 30 des pères. » Bon, il aurait pu dire tout simplement 107 citations des papes, 57 citations de l'Écriture et 30 citations des pères. Il y a déjà un esprit, 117 fois les papes contre l'Écriture et les pères, comme s'il pouvait y avoir une opposition entre le magistère de l'Église et l'Écriture sainte et les pères de l'Église. De plus, il ajoute, entre autres, il y avait un caractère apologétique et polémique, prétendant dissiper les erreurs au sujet de Marie. Eh bien, c'est clair que dans ce jugement de Defiores, se manifestent très bien déjà les courants de la nouvelle théologie, de la nouvelle mariologie, contre la théologie traditionnelle, ou comme écrivent souvent les auteurs, contre la théologie romaine. Dans les novateurs, il y a une espèce de mépris pour ce qu'ils appellent la théologie romaine. Pourquoi ? Eh bien, il n'y a pas de théologie romaine, c'est la théologie de l'Église. C'est la théologie de ceux qui ont étudié à Rome et qui étaient professeurs à Rome. Et il est normal que le pape, au cours des siècles, ait appelé à Rome les meilleurs théologiens du monde, pour pouvoir les consulter et profiter de leurs travaux et qu'ils puissent en faire profiter tous ceux qui viennent se former à Rome. Alors ce schéma, au moment du Concile, au début du Concile, a subi de nombreuses critiques, en particulier de 13 évêques français, lesquels le rejettent parce qu'ils le retiennent imprégné de juridisme, de rationalisme, de latinisme et d'occidentalisme. D'autres l'accusent d'être trop dogmatique et apologétique, pas assez pastoral, christologique, théocentrique, biblique, ecclésiologique et œcuménique. Alors on voit déjà ces deux tendances qui s'affrontent. Bien qu'on puisse faire des réserves et des critiques, au texte primitif qui a été proposé au père du concile, il était resté quand même fidèle au magistère, même si on aurait aimé que le texte soit d'un ton plus élevé, plus fort, plus conforme au magistère, au dernier magistère, dernier enseignement de l'Église, mais il était quand même conforme, même si on a évité tout ce qui pouvait déplaire, comme ils disent, à nos frères séparés. Eh bien, cela ne plaît pas parce que c'est encore trop fidèle au magistère. Donc, le schéma est rejeté. Et il sera rédigé et incorporé avec, dans le cadre de la constitution dogmatique, Lumen Gentium. Lumen Gentium, c'est le texte du concile qui regarde l'Église. Ce texte du concile sera très différent du schéma primitif, parce que, comme disent les auteurs, actuel plus biblique, plus écuménique et plus ecclésiologique. Des 117 citations des papes, il n'en restera que 14. Et on voit tout de suite, on bascule. Notons, alors qu'il se veut plus biblique, que des 57 citations de la Bible, il n'en restera que 25. Et les novateurs font remarquer que le Concile rejoint ainsi la finalité du mouvement biblique qui consistait à valoriser l'Écriture en elle-même sans qu'elle serve à prouver des thèses. Et ça, c'est encore un coup de griffe à la théologie scolastique. Non seulement dans ce texte furent supprimées toutes les expressions des papes, comme dit ce père Desfiores, difficilement compréhensibles par les frères séparés. Mais le concile va plus loin, puisqu'il exhorte, c'est le concile lui-même, c'est dans le texte du concile qui a été approuvé par le pape et les pères du concile, on exhorte à éviter paroles et faits capables d'induire en erreur les frères séparés, comme si les évêques ou les prêtres avaient l'habitude d'enseigner des erreurs. Derrière cette phrase ambiguë, il est clair que le concile exhorte à ne plus prêcher dans ce qui regarde le culte et la doctrine envers la Très Sainte Vierge Marie, tout ce qui peut heurter nos frères séparés, c'est-à-dire spécialement les protestants. Voici un jugement sur le texte du Concile qui me semble assez objectif, même si nous ne sommes pas d'accord avec l'auteur, mais il reflète assez bien la réalité. C'est un jugement du père Laurentin. En parlant du texte du Concile, il dit: il représente une tentative d'arbitrage entre la tendance traditionnelle qui voulait la confirmation de la doctrine mariale des encycliques et la tendance qui voulait un retour aux origines en vue de la cause écuménique. Il n'a pas l'intention de cristalliser la foi et la piété des fidèles, mais simplement mettre en sûreté l'essentiel pour permettre de continuer la recherche et le dialogue écuménique. Bon, là aussi, il y aurait beaucoup à dire, mais je crois que ça reflète assez bien le texte du Concile. On peut dire un texte de compromis, et je dirais que c'est la grande caractéristique pratiquement de tous les textes du Concile. Ce sont des textes de compromis entre la tendance des novateurs, qui a peut-être même pris le dessus, qui avait la force au Concile, mais qui a été freinée par ce qu'on appelle les conservateurs. Alors, on a essayé de faire un compromis. C'est pour ça que l'on trouve dans le Concile ces ambiguïtés. Et je dirais, c'est la gravité, une des grandes gravités du Concile. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur le Concile. Oui. Parce que si nous trouvons les phrases dans le Concile, et on peut en trouver qui sont en notre faveur, eh bien, les novateurs vont s'appuyer aussi sur le Concile pour prouver leur thèse. Donc, nous ne pouvons pas prendre le Concile comme un texte faisant foi, comme un texte faisant autorité. Ensuite, pour le post-concile, eh bien, on pourrait résumer que la théologie mariale, pour la théologie mariale, que c'est l'écroulement de la théologie spéculative, de tout ce qui regarde la théologie dogmatique. Les théologiens ne font plus ce qu'on appelle de la théologie, mais l'histoire de la théologie, l'histoire de la théologie mariale. Et si vous prenez les bibliographies actuelles qui regardent les années 1960 jusqu'à maintenant, il n'existe plus ce qu'on appelle un manuel de mariologie, traitant d'une manière très précise tout ce qui regarde la Très Sainte Vierge. Ça n'existe pas, bien que je vous ai dit qu'il y ait des publications, un nombre énorme de publications qui regardent la Très Sainte Vierge. Il n'y a plus de manuel de théologie mariale, il n'y a plus de texte de mariologie complet. Par contre, on trouve beaucoup d'histoires de la mariologie, Marie dans l'histoire. Et je pense qu'il est assez significatif, c'est les grands, ça existe encore, il n'y a pas qu'ici, il y a des congrès mariaux, mais il existe encore les grands congrès mariaux internationaux. Eh bien, voilà les études qui ont été faites. En 1967, à Lisbonne, c'était le culte de Marie au 1er siècle. À Zagreb, en 1971, le culte de Marie au 6e et 11e siècle. À Rome, en 1975, le culte de Marie au 12e et 15e, jusqu'au 15e siècle. À Saragosse, en 1979, le culte de Marie au 16e siècle. Et en 1983, le culte de Marie au 17e et, au 17e et 18e siècle. C'est tout à fait typique, je dirais même, de l'enseignement actuel de la théologie. Si vous prenez les universités actuellement pontificales, où on enseigne la théologie, il n'y a plus, à proprement parler, de cours de théologie, mais des cours où on enseigne l'histoire de la théologie. Alors on voit l'Eucharistie chez saint Augustin, l'Eucharistie chez saint Thomas d'Aquin, l'Eucharistie au moment du Concile de Trente. On vous expose ces doctrines, on ne porte pas de jugement. Voilà ce que l'Église enseignait au XVIe siècle, voilà ce qu'elle a enseigné au Moyen-Âge. On peut dire que la mariologie, en quelque sorte, s'est réfugiée dans l'histoire. Et il est très clair, si vous prenez les livres de mariologie actuels, qu'on a mis complètement de côté le magistère de l'Église. On peut, par exemple, il y a un livre qui est, je pense, c'est le grand livre actuel qu'on trouve sur la mariologie dans la Marie dans la théologie contemporaine. Pratiquement, il n'y a aucune citation du magistère de l'Église. Alors que depuis presque 200 ans, il y a eu plusieurs dizaines d'encycliques sur la Très Sainte Vierge Marie, des centaines de lettres apostoliques et un nombre de discours infinis des papes sur la Très Sainte Vierge Marie. Eh bien, ce n'est plus cité. On ne connaît plus cela. Et les théologiens les plus avancés traiteront, bien entendu, des mariologies, comme disent, inculturées. Marie dans la pastorale d'Amérique latine ou dans la théologie de la libération. Je vous fais des études sur ces questions. Ou Marie dans la théologie africaine, etc., etc. Enfin, je pense que les plus avancés, la pointe du progrès, qui n'est, je pense, pas suivie par la grande masse même des théologiens actuels, mais il y a des traités, enfin des cours de mariologie en rapport avec le féminisme. Alors, une première conclusion. Avec le Concile, on constate, en quelque sorte, l'effondrement du grand mouvement marial, l'effondrement de la vraie théologie mariale. Et la cause profonde est que, en évitant de se référer au magistère de l'Église, on se détache de la tradition de l'Église et en même temps de tout ce qui vivifie l'Église et notre foi. Ces novateurs veulent faire une nouvelle religion se basant, soi-disant, sur l'Écriture et les Pères, point commun aux protestants et aux orthodoxes, mais faisant abstraction de plusieurs siècles du magistère de l'Église. Or, seule l'Église, avec son magistère, peut interpréter, donner le vrai sens à l'Écriture et aux Pères. Et je dirais cet effondrement de la mariologie, Et on voit dans les livres actuels, par rapport à ce qui a pu être écrit jusque pratiquement en 58, même s'il y a encore eu des bons livres, après, eh bien, tout ce qui pouvait mettre en évidence et en valeur les grandeurs de la Très Sainte Vierge Marie, tout cela s'est complètement écroulé. Lorsqu'on parle de co-rédemptrice, de médiatrice de toute grâce, aujourd'hui, dans les manuels actuels, on n'en parle plus. C'est fini, c'est des termes qu'il ne faut surtout pas employer. Alors c'est clair, si l'Église, avec ses grands congrès mariaux, ses encycliques, a pu mettre et nous donner, mettre vraiment la Sainte Vierge à sa place, comme nous disait Monseigneur Tissier et Malraux ce matin, cet après-midi, nous faire toucher la divinité à travers la Très Sainte Vierge, le mystère de la Sainte Trinité, bien tout ça s'effondre. Alors il y a un fait, je dirais, qui est triste, mais qui est révélateur. Je vous ai dit un mot au départ de ce discours de Jean-Paul II à l'occasion de l'audience du 29 mai 1996, donc cette année. C'est très significatif. Je vous lis, vous trouvez ça non seulement, c'est la traduction de la documentation catholique. Le pape dit « La tradition, le magistère, tradition avec un grand T, magistère avec grand M, ont vu dans ce qu'on appelle le protévangile, donc Genèse chapitre 3, verset 15, une source scripturaire de la vérité de l'Immaculée Conception de Marie. Ce texte inspiré à partir de l'ancienne traduction latine, elle t'écrasera la tête de nombreuses représentations de l'Immaculée qui écrase le serpent sous ses pieds. » Bon, cette affirmation est tout à fait juste de la part du pape. Ensuite, il continue, et je ne saute aucun passage. « Nous avons eu déjà l'occasion de rappeler que cette traduction ne correspond pas au texte hébreu, où ce n'est pas la femme, mais bien sa descendance qui écrase la tête du serpent. » Le texte n'attribue donc pas à Marie, mais à son fils, la victoire sur Satan. Alors, il faut réfléchir un peu. Vous voyez, le pape rappelle l'interprétation que l'Église a toujours donnée, tradition magistère, sur ce qu'on appelle le protévangile. Et ensuite, le pape va nous dire pratiquement que la tradition, le magistère, s'est basé sur une erreur de traduction. Alors je pense, si nous sommes fils de l'Église catholique, nous croyons à la tradition, ce que représente le magistère, on devrait avant tout se poser la question, puisque l'Église nous enseigne cette vérité, nous donne cette interprétation de ce passage de l'Écriture, qui est très important, eh bien peut-être que c'est nous, que nous avons mal compris ou mal les traductions nous semblent peut-être pas conformes, mais c'est une question grammaticale. Et c'est là où devrait plutôt à faire une recherche, mais pas à penser que c'est le magistère ou la tradition qui s'est trompée. Ce n'est pas possible. Ou sans ça, il faut tout remettre en discussion. Pratiquement, le Saint-Père dit dans son discours, voilà ce que enseignait le magistère et la tradition, et il ne critique pas, il convient que c'était ce qui était enseigné, mais aujourd'hui, avec la science nouvelle, avec les recherches nouvelles, avec la philologie, les études grammaticales, eh bien, nous apercevons que ce n'est pas ce qu'enseignait la tradition. Alors nous, automatiquement, si nous avons la foi, nous disons, il y a quelque chose qui ne va pas. Et nous voyons une contradiction. Eh bien, il faut se dire que chez les novateurs, que chez le pape lui-même, ceux qui suivent la nouvelle théologie, eh bien, pour eux, ils ne voient pas une contradiction. Parce qu'ils sont imbus de cet esprit moderniste que Saint Pidis nous dit, l'historicisme, donc ces vérités qui dépendent du temps. Eh bien, c'était très bien pendant des siècles d'avoir enseigné ainsi. Aujourd'hui, c'est différent. Parce que nous ne sommes plus au siècle passé. Et lorsque Mgr Lefebvre allait à Rome et discutait avec les cardinaux, il disait « Nous ne pouvons plus discuter avec eux, nous n'avons plus le même langage, nous n'avons plus les mêmes références. » Comme le cardinal Ratzinger, lorsqu'il parle de la guerre d'une espèce comme un antisyllabus, lorsqu'il a prononcé cette parole, nous avons dit « Bien, finalement, il a vu quelque chose, une contradiction. » Vatican II qui s'oppose à la doctrine de l'Église. Non, pour lui, il n'y a pas d'opposition. Au siècle dernier, la doctrine de l'Église était ainsi. Aujourd'hui, les circonstances sont différentes, donc la doctrine s'adapte aux circonstances. Eh bien, alors c'est la première, et c'est grave de savoir que celui qui est chargé du dépôt révélé, de transmettre l'enseignement de l'Église, constate eh bien, que si on enseignait à une époque une interprétation du Protévangile et on l'a attribué à la Très Sainte Vierge, bien sûr à son fils, mais aussi à la Très Sainte Vierge Marie, eh bien pour lui, ça ne fait pas de difficulté aujourd'hui qu'on attribue le protévangile seulement à notre Seigneur. Parce que le pape le dit très bien, il dit, ce texte n'attribue donc pas à Marie, mais à son fils, la victoire sur Satan. Et par cette phrase, le pape s'oppose, malheureusement c'est triste à dire, mais il s'oppose à la tradition de l'Église, au magistère constant de l'Église. Il y a des études qui ont été faites sur ce sujet. Vous trouverez ça dans le numéro de juillet-août 1996 du Courrier de Rome. Monseigneur Spadafora a fait une étude sur cette question, question qu'il avait déjà étudiée. Il a écrit tout un livre sur l'Écriture, la Très Sainte Vierge Marie et l'Écriture en 1963. Il avait étudié ce problème du protévangile pour montrer que dès les premiers siècles d'Église, les pères ont toujours vu dans le protévangile, l'image, l'annonce de la Très Sainte Vierge et de la mission de la Très Sainte Vierge. Alors l'écriture, les textes de l'écriture, ce n'est pas simplement des questions, je dirais, de traduction scientifique, mais pour trouver le sens exact des textes bibliques, bien sûr, il y a le sens littéral, mais aussi les passages, qu'on appelle les passages parallèles, d'autres passages de l'écriture qui peuvent éclairer ce passage de l'écriture. L'écriture s'éclaire d'un passage avec un autre passage. Il y a tout ce qui regarde, bien sûr, on doit faire référence à la tradition ecclésiastique à partir des pères de l'Église et au magistère de l'Église. Le véritable exégète, celui qui interprète l'Écriture sainte, doit se baser sur ce. Voir ce que l'Écriture sainte a dit dans d'autres passages et ensuite aller étudier la tradition des pères, à l'étudier tout l'enseignement constant de l'Église et le magistère de l'Église, ce que nous ont dit les autorités, les conciles et les papes sur l'Écriture sainte. D'autre part, la question scientifique de la traduction, ce serait un peu long peut-être, vous la trouverez dans l'article, parce qu'on vous explique que la descendance en hébreu, c'est neutre. Et ensuite, et bien que dans le texte grec, pour traduire cette descendance, on utilise le masculin, aotos, et dans le latin, on utilise pour cette descendance, ipsa, le féminin. Je pense que Saint Jérôme, ou ceux qui ont traduit à cette époque la Bible, savaient très bien ce qu'ils faisaient. Et il est curieux de voir que, quand même, je pense qu'avant notre époque, il y avait des latinistes et des gens très compétents en grec et en hébreu, n'ont jamais vu et soulevé le problème. Parce que, et c'est ce qu'expliquent les pères de l'Église, et l'enseignement constant de l'Église, qu'on trouvait dans la version latine et la version grecque, je dirais, un complément tout à fait logique. On voyait aussi bien notre Seigneur que la Très Sainte Vierge dans l'explication du protévangile. Et toute cette explication est donnée dans le courrier de Rome, dernier courrier de Rome, par Mgr Spadafora. Mais il me semble, ce qui est beaucoup plus grave, c'est que le texte du protévangile est cité dans deux bulles dogmatiques. Le pape Pie IX, dans Ineffabilis Deus, la bulle de la définition de l'Immaculée Conception, le 8 décembre 1954, cite le protévangile, le passage du protévangile, et de même Pie XII, du 1er novembre 1950, dans sa bulle pour la proclamation de l'Assomption. Et c'est un texte sur lequel les papes se basent pour prouver que ça soit l'Immaculée Conception et aussi l'Assomption de la Très Sainte Vierge. Est-ce qu'on peut trouver des textes qui ont une valeur plus grande que des définitions dogmatiques dans le magistère de l'Église? Ces textes définissent d'une manière infaillible, bien sûr, ils définissent, si vous voulez, l'infaillibilité elle-même regarde la définition de l'Immaculée Conception et de l'Assomption. Mais l'ensemble du texte où on cite l'Écriture sainte est très important. Et c'est très grave de ne pas tenir compte et de ne pas citer ces deux textes lorsqu'on interprète le protévangile. Un professeur de séminaire, lorsqu'il explique aujourd'hui le protévangile, est obligé de citer ces textes. C'est l'interprétation la plus authentique et la plus solennelle qu'a pu donner l'Église jusqu'à maintenant. Alors faire fi de ces deux textes, c'est extrêmement grave. Parce que c'est de se détacher non seulement de deux proclamations infaillibles, mais il ne faut pas oublier que ces deux proclamations de dogme s'appuient sur toute la tradition de l'Église. Et je dirais que ce soit Pie XII ou Pie IX, dans leur proclamation, justement, nous montrent et insistent pour montrer que ces vérités se trouvent dès le début de l'Église. Elles ont été se trouver dans l'Écriture sainte, dans la tradition. Alors je pense que oui, c'est extrêmement grave et ça nous montre comment, malheureusement, le pape est complètement imprégné de ce qu'on appelle la nouvelle théologie, de ce qu'on appelle l'esprit moderniste, vous voyez, cet historicisme. Bien sûr, le pape ne critique ni le dogme de l'Assomption, ni de l'Immaculée Conception, et ni des explications que donnent ses prédécesseurs, ni l'interprétation du protévangile. Pour lui, ce qu'a dit Pie IX et à l'occasion du protévangile, il dira, mais c'était la doctrine de l'époque, les circonstances de l'époque, c'était très bien. De même, le pape Pie XII. Mais aujourd'hui, les recherches actuelles, la science moderne, on est dans d'autres conditions. Et donc, eh bien, il faut se conformer et adapter la doctrine de l'Église à ces nouvelles conditions. Et cela, il faut le dire, vous voyez, certainement dans un esprit œcuménique. Vous voyez. Pourquoi vouloir insister sur le protévangile ne donnant qu'une explication qu'il regarde notre Seigneur et pas la Sainte Vierge? Et vous savez bien que les protestants, Luther lui-même, parle de la Sainte Vierge et a écrit beaucoup sur la Sainte Vierge. Il croit à la virginité de la Sainte Vierge. Mais pour les protestants, Luther, les protestants, eh bien, la Sainte Vierge reste, si vous voulez, un exemple pour les chrétiens. Mais n'a aucune participation, aucun rôle dans la rédemption. Et ce que reproche aux catholiques, c'est justement de donner un rôle important à la Très Sainte Vierge dans la rédemption. Mais ce ne sont pas les catholiques qui ont inventé ça, ça se base sur le protévangile, sur l'Écriture sainte. Alors le pape, vous voyez, pour se mettre au même niveau des protestants, eh bien, réinterprète d'une manière protestante la Sainte Écriture. Alors c'est grave. Et ça nous montre où on réduit, vous voyez, la doctrine de la Très Sainte Vierge aujourd'hui, et à Rome même, par la plus haute autorité de l'Église. Mais je dirais que le discours du pape n'est que l'aboutissement de ces 40 ans d'enseignement de mariologie, de cette influence petit à petit des nouveaux principes théologiques, la nouvelle théologie qui est arrivée à écarter pratiquement complètement de l'Église toute la doctrine du magistère. Alors il faut conclure une ultime conclusion. Eh bien, quitter le magistère, qui est l'expression de la tradition, pour un soi-disant retour aux sources, ce serait un peu quitter nos cathédrales, quitter nos beaux sanctuaires, pour se retrouver où? Ben, vous connaissez la basilique souterraine de Lourdes, ou la basilique Sainte-Bernadette, vous voyez. Quand on quitte nos trésors, eh bien, on se retrouve dans ce qu'ils appellent, si c'est encore de l'art moderne, qui n'a plus grande signification, qui est un appauvrissement, et souvent ce n'est pas simplement un appauvrissement, ça nous conduit même vers des horreurs. Je dirais, c'est un peu la théologie mariale, on a quitté notre richesse, qui est la lumière de l'Église, pour être appauvri, et puis lorsqu'on quitte le magistère de l'Église, facilement, on erre, on va dans l'erreur, on n'a plus de point de référence. Ce qui permettra, bien sûr, qu'on trouve dans la mariologie actuelle toutes ces affirmations extravagantes sur la très sainte Vierge. Voilà brièvement ce que je voulais vous dire, oui, l'importance du magistère de l'Église. C'est la force et la lumière du théologien. Ou nous croyons à l'Église, et nous croyons qu'elle est assistée par l'Esprit-Saint, ou bien sûr, si nous ne croyons plus, comme les novateurs, à la dimension surnaturelle de l'Église, elle n'est plus assistée par l'Esprit-Saint, on descend à un raisonnement purement rationnel. Mais ce qui fait la grandeur de l'Église, c'est quand même sa dimension surnaturelle. Et lorsque nous voulons traiter de la Très Sainte Vierge en enlevant la dimension surnaturelle, eh bien sûr, nous nous abaissons, c'est l'appauvrissement, c'est ce que nous pouvons constater aujourd'hui. Voilà, merci.